J'étais dans une phase de ma vie où j'ai l'impression d'être complètement détruite. C'était le mot que j'avais employé avant l'hospitalisation, de plus être, en fait, d'avoir été vidée de ma substance. Et c'est comme ça que je suis rentrée ici, et c'est écrire qui m'a rendu ma substance. Véritablement, c'est par là que j'ai repris un tout petit peu confiance en moi, en me disant, tiens, je suis encore capable de mettre quatre lignes sur un papier, et que ça fasse sens, et que ça ait du sens pour moi, et que je sortais d'ici, j'avais l'impression que j'avais un centimètre de plus.
Écrire ailleurs. En psychiatrie, se reconstruire face à l'abîme. Un documentaire de Vinciane Meuchler.
Et donc, je voulais témoigner pour ça, pour faire un peu tomber les tabous, et puis pour, plus personnellement, peut-être revenir à l'écriture, moi, et à tout ce que ça m'apporte, en fait. On est des gens comme les autres, avec juste des douleurs. Les gens qui vivent une souffrance intérieure telle que celle que les patients qui sont ici la vivent, que les gens aient moins peur de ça, les gens à l'extérieur qui nous écoutent, etc., qui se disent pas, tiens, ça doit être des écrits complètement loufoques ou bien très noirs. Non, au contraire. Et je crois que c'est une écriture thérapeutique. Elle vaut pour plein de gens qui ne sont pas hospitalisés aussi. Beaucoup de gens prennent la plume pour un peu extérioriser leurs démons et se faire entendre.
L'atelier d'écriture est une pièce peinte en jaune. Ceux qui la franchissent disent qu'elle est un peu comme la cabane où l'enfant aime se réfugier quand il a du mal à habiter le monde. Un peu comme la chambre à soi de Virginia Woolf, frontière poreuse où se déploient folie, art et création. Depuis plus de 10 ans, c'est dans cet hôpital psychiatrique de Bruxelles que je donne des ateliers d'écriture. Pénétrer l'univers de la psychiatrie n'est pas chose aisée. J'ai cherché comment témoigner de ce lieu clos et de la catharsis de l'écriture en prenant de la distance. Comment parler de ceux que j'observe quotidiennement avec toujours la même émotion, le corps courbé sur une page blanche avec la tentative forte et sublime d'essayer de se reconstruire, de retrouver un peu d'estime de soi. Alors j'ai demandé au psychiatre François-Emmanuel de poser des mots et de donner sens à cette démarche, levier de l'élaboration psychique, parce qu'il est aussi écrivain et que pour lui l'acte d'écrire est essentiel. J'ai cherché également à découvrir comment se pratiquait un atelier d'écriture outre-Atlantique. À Brooklyn, dans la petite maison qu'elle partage avec Paul Auster, son mari, l'auteur Siri Hutzfeldt m'a parlé des patients qu'elle recevait à la clinique Pine Whitney de New York. Mais je ne pouvais pas concevoir ce documentaire sans donner la parole à ceux que j'ai côtoyés dans mes ateliers. Certains ont lu leur texte avec émotion, prêts pour une réconciliation entre le moi intime et le moi public. D'autres, comme Stéphanie et Juliette, ont accepté de me faire confiance et de témoigner. Quand j'ai déposé le micro face à elles, elles ont pris le temps de choisir leurs mots. C'est énorme de choisir ces mots. Choisir ces mots, c'est le début d'une existence.
Bon, du coup, c'est mon agenda de l'hospitalisation en 2007. Alors, je peux lire une page. Cours, après perfusion. Groupe de parole, 11 à 12, 12 heures diététicienne, et puis généraliste, et puis cours, actualité, peinture déco. Puis à chaque fois le poids là au-dessus, 38,4 kg, lendemain, perfusion, cours, histoire d'elle, vernis à ongles. J'imagine vraiment pas faire l'activité vernis à ongles, mais ok, apparemment je l'ai faite. Cours, bilan de semaine. Je quitte la chambre de sécu. Aquagym. On a été à la piscine. J'imagine pas aller en maillot avec des gens.
Depuis longtemps, je marche. Une heure, une seconde, une année, je ne sais plus. La plante de mes pieds et mes ongles trop longs s'écrasent sur le feuillage meurtri d'une sombre forêt. Le crépitement de mes pas se fond au craquement assidu de mon cerveau. Je deviens terre et comme un automate dénué d'aspiration ou de sens, je marche encore, les yeux bandés par un trop-plein de vide. Maintenant, je ne sais plus si ce sont mes pieds ou mes genoux qui touchent le sol et qui continuent de se faire traîner, arrachés par le temps. Perdu, une question danse en boucle et ne quitte plus mes pensées. Où aller lorsqu'on ne s'abrite plus ?
François-Emmanuel.
Les ateliers d'écriture, c'est une mise au travail, au fond. C'est une proposition de mise au travail de personnes qui sont dans un moment de leur vie qui est un moment singulier et qui font qu'ils se retrouvent en psychiatrie, dans un centre de jour, dans un hôpital. La proposition est là. Moi, j'ai travaillé dans un centre de jour et finalement, on ne prescrivait pas aux patients d'aller dans tel ou tel endroit. Simplement, les ateliers étaient là. Il y avait des ateliers d'art plastique, il y avait des ateliers de danse, des ateliers de céramique et un atelier d'écriture. Et donc, certains patients, attirés par l'écriture, allaient là-bas. Il n'y avait pas donc un effet de prescription. Simplement, les gens allaient vers ce qui les intéressait. Certes, on sait, chacun sait plus ou moins que tel ou tel support de médiation créatrice lui convient. Oui. Que certains d'entrée de jeu aiment la lecture, certains ont une pratique du journal intime, donc ils vont se diriger vers un atelier d'écriture.
C'était une attente, en fait. Parce que quand j'étais arrivée dans le milieu hospitalier ici, j'avais vu qu'il y avait des ateliers d'écriture. Et l'écriture, pour moi, les mots étaient importants depuis toujours. J'écrivais quand j'étais plus jeune. La littérature fait partie de ma vie, de toute façon, en règle générale. Et donc, je m'étais dit, c'est un atelier auquel j'ai envie de participer. Mais je ne m'attendais pas au choc que ça allait me faire. C'est-à-dire de me retrouver dans un endroit qui était dédié à l'écriture et où j'étais là pour ça et finalement où j'allais arrêter de me censurer. Donc c'était un endroit où on allait me donner le droit d'écrire et de retourner vers l'écriture, alors que moi pendant des années, mais vraiment de longues années, l'écriture en tout cas intime, j'avais écrit au niveau professionnel mais pas au niveau intime, je me l'étais plus octroyé ce droit-là, je me l'étais complètement désapproprié. Et l'écriture, et j'ai eu ce choc en fait de me retrouver face à une page blanche que je pouvais noircir comme je voulais, avec ce que je voulais, avec ce qui me passait par la tête à ce moment-là, la douleur que j'avais à ce moment-là. Et j'ai tout de suite été vers quelque chose d'assez intime dans l'écriture. J'ai pas eu envie de fiction, ou j'avais besoin de parler de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Et ça a été une délivrance en fait, la première fois que je suis arrivée dans l'atelier d'écriture.
Dans l'atelier d'écriture, il y a quand même toute une part d'ateliers qui sont des ateliers de l'écriture de soi. L'écriture de soi, donc le récit de vie, le journal intime, les confessions, les mémoires, enfin tout ce qui va puiser dans l'autobiographie. Et d'autre part, des ateliers plus fictionnels, hein, puisant dans l'autobiographie également fictionnelle, ou qu'on pourrait appeler auto-fictionnelle. Mais il y a quand même cette notion d'atelier de l'écriture de soi qu'on ne retrouve pas dans les autres ateliers artistiques. C'est assez proche Si on prend par exemple le récit de vie, le récit autobiographique, c'est assez proche parfois d'une certaine démarche psychothérapeutique qui consiste à tenter de mettre des mots, de retrouver une forme de distance par rapport à l'expérience vécue, parfois difficile, parfois traumatique, de tenter de rassembler aussi. Alors, c'est une histoire évidemment terriblement individuelle. Il y a pour chacun un chemin où l'atelier d'écriture tout d'un coup prend sens. Où tout d'un coup... Alors, il peut se passer des tas de choses, mais qui sont vraiment de l'ordre de l'histoire de chacun ou du parcours de chacun au sein de la structure. Et où on se rend compte, tiens, tout d'un coup, cet atelier prend sens dans sa vie. Et donc chacun a un espace fictionnel qui lui est propre au sein même d'un atelier. J'ai souvent envie de comparer ça avec la tessiture vocale, si vous voulez, comme un chanteur qui... Il y a un endroit de sa tessiture où il est très à l'aise, où il va pouvoir aller très très loin avec beaucoup d'amplitude, alors que s'il n'est pas tout à fait dans sa voix, il est très réduit au niveau de ses potentialités.
La première fois que j'ai senti que je pouvais manger sans y penser, la première fois que je me suis attachée passionnément, la première fois que j'ai senti que les choses ne seront plus jamais pareilles, la première fois que j'ai osé y penser, la première fois que j'ai réussi à écrire sans censurer, la première fois que les mots sont sortis dans le dictaphone, la première fois que j'ai eu envie d'effacer mon passé, ou plutôt ce que j'ai dit de mon passé. Première fois que j'ai eu envie d'être quelqu'un d'autre. Première fois que je me suis maquillée. Première fois que j'ai senti la solidité du sol, ou plutôt l'intérêt de la solidité du sol. Première fois que les sensations sont revenues. Que j'ai eu peur de vous perdre. Que j'ai créé mon espace sous le bureau. Que j'ai dormi avec lui. Okay. Que je l'ai vu autrement. Que j'ai été hospitalisée, que j'ai perçu réellement la honte, que je me suis fait vomir, que je me suis coupée, que je me suis réinventée, que je me suis séparée de ma maman, que je suis partie en classe verte, que j'ai ouvert l'album photo, que je l'ai revu, que j'ai eu en visite, que j'ai cru que c'était la fin du monde et que j'ai vu la môme. La, 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 la.
Écrire même l'écriture de soi, c'est quand même mettre en forme le privé, le personnel, pour que ce personnel, ce privé, soit partageable. Ce que François Bon appelait l'intime. Donc le travail de transformation du privé en intime. C'est ce que fait Annie Ernaux, parlant d'un amour de jeunesse, d'un problème qui lui est arrivé à tel moment de sa vie. Elle le transforme pour en faire quelque chose qui peut être lu par tout le monde. Ce processus de transformation est essentiel. Et l'animateur, il est là pour ça. Il est là pour permettre, en quelque sorte, cette sorte de transformation alchimique du privé en intime. Et le processus d'écriture, il est tout entier compris là-dedans. Ça veut dire qu'il y a en nous, lorsque nous écrivons, un écriveur et un lecteur. La difficulté parfois, c'est que quand le lecteur n'est pas là ou est là de manière inconstante, c'est assez difficile d'intervenir. Et parfois dans la psycho, j'ai souvent constaté que le lecteur était un peu absent. La meilleure manière de comprendre la psychose, c'est pas de dire que ces gens sont à l'ouest ou qu'ils construisent des châteaux en Espagne. Ou... C'est de se dire que ce sont des personnes qui ont un appareil symbolique défaillant. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui font que leur appareil symbolique est un peu défaillant. Ça tient pas trop la route. Or, l'appareil symbolique, un peu de manière complémentaire à l'imaginaire que j'évoquais il y a un instant, l'appareil symbolique, c'est ce qui nous permet de nous adapter au réel à tout moment. Et chez ces personnes-là, mais d'une manière très singulière à chacun, l'appareil symbolique est défaillant. Dans l'appareil symbolique, il y a les mots, il y a le langage. Et ce qu'on constate beaucoup dans la psychose, ce qui a été amplement décrit par les psychiatres français, la psychiatrie française, mais tout, c'est combien ce goût des patients psychotiques ou des patients souffrant de psychose pour le néologisme, pour le jeu de mots, pour les jeux d'attraction bizarres entre les mots, voyez-vous. Et ça, on peut l'entendre dans un texte. Quand un texte est là et qu'il est manifestement comme investi d'une espèce de ritualité ou presque de pensée magique. C'est comme si, alors c'est pour faire court, parfois, ce qui pour nous est du symbolique, pour eux est un peu du réel. Et donc ça complique un peu les choses. Il faut le savoir.
We didn't make narratives, huh?
Siri Utzfeldt.
I remember was the closest to storytelling because psychotic people, I found, not everyone was psychotic, but psychotic people had
La plupart du temps, nous ne travaillons pas avec des récits. L'exercice I remember était ce qui se rapprochait le plus de la consigne. Parce que je me suis rendu compte que les psychotiques avaient énormément de difficultés à construire un récit séquentiel cohérent. La question du moi est une question tout à fait fascinante. Le lien entre le moi et la maladie, et dans une certaine mesure, la maladie fait partie intégrante du moi, mais dans la psychiatrie, l'étiquette qu'on vous assigne, vous êtes bipolaire, vous êtes schizophrène, vous êtes maniaco-dépressif, cette étiquette prévaut et prend le pas sur le récit qui accompagne la personne.
The narrative of the person. And you know this it's so complicated but
c'est très compliqué mais je pense qu'un des problèmes de l'approche médicale en tout cas aux États-Unis et en psychiatrie ne se base pas sur l'histoire de la personne. Il y a des symptômes, il y a un diagnostic mais son histoire fondamentale a totalement disparu de la médecine psychiatrique.
There's a diagnosis, but the case study has vanished from psychiatric medicine. So,
le patient s'adressera à l'assistante sociale et sera considéré comme un être parlant. Mais le psychiatre, lui, le voit 10 minutes, l'écoute, puis s'en va, sans jamais vraiment connaître son histoire.
And walk away. They don't really know the story of the patient. So it's first of all, my work there was completely a volunteer writing course for psychiatric inpatients.
Le travail que je faisais était bénévole. Je donnais des ateliers d'écriture pour des patients en psychiatrie. J'avais des adolescents et des adultes. J'ai poursuivi pendant 3 ans. C'était à l'époque où je rédigeais un roman dont le narrateur était un psychiatre, un psychanalyste. Cela s'appelait Élégie pour un Américain.
The sorrows of an American. I
J'ai beaucoup lu sur la psychiatrie, sur la psychanalyse, la neurologie et les neurosciences. J'ai lu pendant des années, mais jamais je n'avais travaillé avec des patients en psychiatrie. Je n'avais jamais eu cette proximité clinique, si vous me permettez l'expression. Et j'ai donc décidé de me rapprocher, sentir ce qu'était cette expérience.
Be close to psychiatric patients and feel what the experience was like. And I have to open the door. I'll be right back.
Nous avons tous un imaginaire. Il suffit de regarder des enfants de 3 ou 4 ans quand ils... C'est beau à voir. 3, 4, 5, 6, 7 ans. Quand ils s'essayent, au fond, à des jeux, ils vont dire « On disait que je suis le docteur ou je suis le pompier. » Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'une certaine façon, de cette manière-là, c'est plutôt « on dirait que » d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la langue dit « on disait que ». Ils essayent de prendre une forme de contrôle sur le réel. Quand on rêve, on ne fait pas, on fait un peu ça aussi. On reprend un réel qui nous a un peu choqué, qui a produit des à-coups en nous, on le reprend et on le fictionnalise d'une façon parfois étrange, un peu incongrue. Cet imaginaire que l'on construit, il est très important parce que ça nous permet, je crois, de vivre dans ce fameux réel avec une forme de tampon. On ne prend pas alors les choses dans leur dureté. Et c'est souvent ce que je dis lorsque je propose un atelier d'écriture. On va simplement vivifier, travailler l'imaginaire, vivifier l'imaginaire par toutes sortes de propositions, parfois incongrues, étranges, mais qui, idéalement, vont susciter une espèce de jubilation, la même jubilation que les enfants ont lorsque ils se mettent à jouer. Cette jubilation-là, elle est à l'œuvre, évidemment, dans toute œuvre d'art. Je dirais même parfois, c'est une forme de retournement jubilatoire de la zone d'effroi. Et dans les ateliers de théâtre, comme dans les ateliers d'écriture, on va souvent proposer des consignes ou des contraintes, mal nommées contraintes, pour essayer de susciter tout d'un coup un espace de jeu presque enfantin, ou un espace de décalage, de déplacement qui va ouvrir tout d'un coup à éventuellement une voie nouvelle.
Donc ça, je ne sais pas si on peut vraiment dire écriture, mais
collage,
en tout cas, plutôt ouais, collage, même si c'est vrai que j'ai mis, je ne sais plus la date, c'est la première carte que j'ai faite durant le cours d'écriture, c'était génial. Après, la suivante, 12 juin 2006. Voilà, un collage un peu glauque, quoi, avec « ils sont fous ». Bon, mon nom est personne. 16 juin 2006, chez Ukiné, je me vois avec 25 kilos en plus, elle m'a dit, je suis dans une vraie galère et merde. 26 juin 2006, je m'ennuie à la santé, 41 kilos SOS. En découpé dans des magazines. Et puis 29 juin 2006, adolescence, la peur, lâchez-moi, trop grosse, et j'ai barré bien-être. Il y a plein de feuilles où je vois que je commence, je me dis que je commence un journal et puis finalement c'est une feuille par-ci par-là, comme là. Voilà, on m'a dit d'écrire mon journal, alors je m'y mets. Pareil, aujourd'hui le 7 juillet, j'ai décidé de commencer mon journal. Et puis chaque fois c'est une page et je crois que c'était trop compliqué pour moi à ce moment-là. Je sais pas, mes textes, ces textes-là, je les ai écrits vraiment tout à fait détachés, quoi. Comme si c'était pas à moi que ça arrivait. Et là aussi, mes premiers, premiers journaux que j'ai écrits, je trouve qu'on voit que, finalement, la maladie, enfin, ou plutôt... tout tourne autour de la bouffe. Il n'y a pas vraiment de texte, je trouve. C'est pour ça que je n'en ai pas gardé beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'une toute une partie de... toute une période, il n'y avait que ça. Et puis après, ça a été... plus écrire sur moi. Et maintenant, ce serait plus écrire la fiction. Maintenant, je le vois avec un autre angle. Enfin, si je réécrivais les choses dont je parle là, ben, je ne les réécrirais pas comme ça. Du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de vérité. Donc ça me donne... ça me frustre. Je crois pas que j'aurais pu écrire de la fiction ou me permettre de partir dans un... notre univers, même en partant de certaines choses de mon histoire, mais de les faire vivre à des personnages, je crois pas que j'aurais pu le faire si j'avais pas d'abord fait ça. Mais ce sont pas des textes que j'aime particulièrement. Parce qu'en plus, bah, ça tourne autour de gens que je connais, de gens qui ont aussi évolué comme ça, et enfin, je les vois plus comme ils sont là. Je crois que c'était juste nécessaire pour passer à autre chose. Alors il y a un texte, pas que j'aime, mais que j'ai beaucoup travaillé avec ma psy au moment de l'hospitalisation. Celui-là, j'ai écrit à l'atelier d'écriture. Et je l'ai dactylographié, mais c'était vraiment difficile pour moi. Donc j'ai dactylographié en écoutant un autre... enfin, un texte que je connais par cœur. Pour pas... comprendre ce que je tape en même temps. Enfin, oui, je me concentrais sur le texte que j'écoutais pour ne pas comprendre le texte que j'écrivais et juste retaper les mots pour après pouvoir déchirer la version papier et avoir ce sentiment de tourner une page. Sauf qu'il continuait à me hanter. Donc finalement, j'ai pris la décision de le lire... à ma psy. Et voilà, en fait, j'ai aucune idée, j'ai aucun souvenir de sa réponse. J'ai le souvenir que ça m'a fait comme si on perçait une grosse bulle que j'avais sur mon dos et qui était trop lourde, et poum, c'est parti.
Non, ce que je retire des ateliers d'écriture, c'est plus l'écrivain.
François-Emmanuel.
Je trouve que ça ouvre tout un espace de jubilation, parce qu'on est, comme créateur, on est toujours aux prises avec les portes qui se ferment. Il n'y a rien à faire. Le mental ferme. Si c'est extraordinaire, vous mettez quelqu'un sur un journal intime lorsqu'il a 20 ans, vous le mettez à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, il n'écrit plus que je suis allé au magasin, j'ai acheté pour... Oui. On se réduit. Notre manière de voir le monde se réduit avec le temps. Et quand on est aux prises avec quand même... Une envie de poursuivre ce mouvement d'ouverture qu'un livre a créé pour un autre livre, ce qu'on appelle un peu pompeusement une œuvre, c'est sûr qu'on est aux prises avec la fermeture naturelle des choses. Et sauf que les ateliers d'écriture m'apportent une obligation d'ouvrir, ça m'ouvre l'esprit. Je dirais que la moitié au moins quand même des ateliers d'écriture sont proposés par des gens qui écrivent, des écrivains. Et je trouve que c'est une belle garantie parce qu'ils sont soumis à cette loi de l'écriture. Ils la connaissent, ils sont peut-être soumis au risque de l'écriture. Et donc ils sont peut-être plus à même d'être dans cette position de reconnaître, stimuler, accompagner, reconnaître. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la compétence humaine. Alors la compétence humaine, ça ne s'apprend pas à l'université. Donc c'est quelqu'un qui a un souci de l'autre et qui a une écoute de l'autre. Puis il s'agit d'accompagner l'autre dans son processus. On pourrait dire la même chose d'un professeur d'art. Tout bon professeur d'art, c'est quelqu'un qui écoute son élève. Sauf qu'ici, on est quand même dans un milieu très particulier où ce ne sont pas des gens qui ont choisi d'être là, parfois. Et parfois, il y a toute une série de choses particulières qui peuvent se produire, comme une attaque du cadre proposé. Parfois, il y a des gens qui sont quand même très, on va dire, engoncés dans une difficulté. Je n'ai rien à dire, bloqué particulièrement, inhibé. Donc, chose qu'on rencontrera peut-être moins dans une école d'art. Mais c'est des qualités essentiellement de compétences humaines et je trouve de s'être investi personnellement dans la discipline artistique. Non pas pour imposer à l'autre sa propre esthétique, il ne s'agit surtout pas de ça, mais pour savoir ce que c'est que le processus. On ne peut accompagner le processus chez l'autre que si on sait soi-même, on sait ce que c'est que le processus pour soi. Quant à savoir, est-ce que l'animateur doit connaître un certain nombre de données biographiques de la personne, je n'en suis pas certain. Je pense qu'il peut avoir... C'est important qu'il ait rencontré la personne, individuellement bien sûr, pour savoir où elle en est, mais je ne suis pas sûr que l'anamnèse, au sens médico-psychologique, peut être... contributive, je ne suis pas sûr que ça ne peut pas un peu biaiser l'écoute que l'on peut avoir par rapport à ce qui se produit dans l'atelier.
And I felt with psychiatric patients,
Siri Hutzfeld,
that
j'ai eu l'impression que l'importance de mon atelier résidait dans le fait que j'étais totalement ouverte, honnête et concentrée sur ce qui se disait et s'écrivait. Et que toute ma capacité intellectuelle était mobilisée dans l'écoute des textes. Jamais je n'ai trompé les patients, jamais je n'ai fait semblant. J'avais parfois ce sentiment extrêmement intense, celui qu'ont sans doute les gens en situation de guerre. Et je crois que pour les patients, il était important que je sois un auteur, un vrai auteur, un auteur publié, un auteur sérieux.
Je n'ai
jamais été méprisante, je n'ai jamais dénigré un texte, parce que je percevais qu'il y avait énormément de non-dits dans les textes. Je n'affirme pas que par magie, l'écriture guérit les personnes de leur maladie. Nous savons pertinemment que ce n'est pas le cas. Cependant, cela donne la possibilité d'avoir un reflet. Il ne se regarde pas dans un miroir qui renvoie une image vide, non. Le texte fonctionne en tant que reflet, en tant que miroir du patient. Et cela peut être intéressant.
Thank you.
Je me pose toujours la question de savoir quelle est la différence entre les patients et moi. Parce que toute maladie est une exaspération de ce que nous avons tous. La dépression, par exemple, est une expression intense de la tristesse. Les maniaques ressentent une forme intense de joie. Et ma réponse est finalement toute simple. Moi, je suis en dehors de cet hôpital parce que, quelle qu'en soit la raison, je parviens à gérer. Gérer est dans mes cordes. Alors que les personnes à l'intérieur de l'hôpital n'y parviennent pas. En philosophie, on parle de l'espèce naturelle. Par définition, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est l'aptitude à faire face. Moi, j'y parviens, eux pas.
There's just a difference in, I guess, coping and managing skills. You know, somehow I can do it and they can't.
Paul Auster dit parfois que l'écriture est une maladie. Il y a une partie de vérité. D'où vient le besoin d'écrire? En quoi consiste ce besoin?
Ici, c'est écrire en milieu hospitalier, en milieu psychiatrique. Donc, mais c'est... Finalement, on écrit, je reviens à la légitimité de ça. Moi, ça m'a donné, mon écriture était légitime ici. Je me la re-rendais légitime, alors qu'elle était peut-être partie dans le futile quand on commence à faire des études et puis une vie professionnelle bien remplie, etc. C'est des choses qu'on va faire quand on aura le temps. Tandis que le lieu clos ici, il donnait un cadre. Il donnait un cadre à l'écriture, il permettait à l'écriture de se développer parce qu'il était fait pour ça. On savait que ça commençait à 10h du matin jusqu'à midi. Et pendant 2 heures, on pouvait se dédier juste à ça, comme une autre activité en lieu clos qui est l'ergothérapie ou bien le massage avec la kiné. On va à ce moment-là se dédier à son corps ou bien au bricolage, à la créativité artistique, par exemple, dans une autre forme. Et donc, le lieu clos permet de... En tout cas, dans mon cas, à moi, ça, c'était m'octroyer le droit d'écrire. C'était vraiment ça, le lieu clos. Ça m'a pas fait peur. Je me suis pas dit, je suis emprisonnée. Et donc, l'écriture fait partie de cet emprisonnement. Non, au contraire, c'était m'offrir une porte de sortie, justement, vers en dehors de l'hôpital. Quand j'écrivais, j'étais plus à l'hôpital, j'étais plus hospitalisée. Je sortais de cet état d'hospitalisation. C'était ça que ça m'offrait. Et je crois que c'est pour ça que c'est important, toutes les activités qui sont faites comme ça en milieu psychiatrique, ça permet aux patients d'oublier un peu où ils sont et peut-être pas d'oublier leur douleur, parce que justement, moi, j'écrivais sur cette douleur, mais d'oublier qu'on est dans un lieu clos dédié à ça.
J'exorcise une emprise, surréalité, des reflets, le violet dans la chicorée, des divines libertines sur ma rétine, tes ondulations sont la résolution. Je me barre loin de ce monde, je m'en vais loin de son ombre, j'épelle, goddess, Harakiri, près des yeux dilatés, près des yeux dépouillés, je concéderai. Trace de traits dans l'air, je trace des traits dans l'air, toute nue dans une abstraction. Une poussière blanche sur le bout du nez, des sapins lointains et la voix ferrée. Dans un train en fer, je m'accouplerai. T'as dit enfer? J'ai dit enfer. T'as dit enfer. Trace de traits dans l'air. Je trace des traits dans l'air. Toute nue dans une abstraction. Je garde la lumière de l'étranger. Je me donne à toi sans hésiter, dépouillé. Enflammant une terre coagulée, la matière d'un jamais précédé. Liberté. Trace de traits dans l'air, je trace des traits dans l'air. Toute nue dans une abstraction.
J'ai une histoire très intéressante d'un jeune qui participait à mon atelier. J'avais le sentiment qu'il était bipolaire, même si personne ne me l'avait vraiment dit. En cours de l'atelier, nous avons fait l'exercice « Je me souviens d'eux ». Il a écrit des souvenirs magnifiques de sa vie où il jouait avec d'autres enfants. Son écriture était tellement belle que je me suis permis de lui faire des commentaires. Je l'ai félicité. Ensuite, après l'atelier, nous nous sommes retrouvés dans le couloir. Je ne voulais pas que les autres patients l'entendent. Mais je lui ai demandé s'il avait pensé un jour se lancer dans l'écriture. Il m'a regardé silencieusement. La semaine d'après, il n'est pas venu à l'atelier. J'imagine qu'il avait quitté l'hôpital. Et un an plus tard, j'ai reçu un paquet. Non, c'était 2 ans, peut-être 3 ans plus tard. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait un livre et une lettre qui disait « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, j'ai participé à votre atelier, j'ai même écrit un poème. Dès que j'ai vu le texte, je me suis souvenu de lui. » Je ne me rappelais pas franchement de son apparence, mais je me suis remémoré cette rencontre et ce texte. Il avait publié un livre dont le titre était « Argent et folie à Wall Street ». Il était en fait boursier à Wall Street et avait souffert d'une dépression grave. Il avait été interné et puis il était maintenant écrivain. Et nous sommes restés en contact. J'ai vu il y a peu de temps son éditeur. Et dans la lettre, il me disait « Merci d'avoir changé ma vie ». C'était excessivement émouvant.
Quelque part, j'avais même perdu l'envie d'utiliser les mots pour m'exprimer oralement. J'avais l'impression que j'arrivais plus à parler, que j'arrivais plus, que tout était tellement brouillé dans ma tête que même, alors que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et depuis que je suis toute petite, on m'a toujours traité de bavarde. C'était très déstabilisant pour moi de ne plus ressentir le pouvoir des mots, le pouvoir magique des mots. En tout cas, c'était un sentiment personnel. Je ne sais pas si c'est vrai. C'était l'impression que je donnais aux gens qui étaient ici et qui me soignaient. Mais en tout cas, moi, j'avais l'impression d'être déconnectée des mots. Pourtant, je les aimais toujours, les mots. Et c'est en les malaxant, en les écrivant, en les triturant dans mon esprit avant justement de les écrire et en les écrivant donc au bout du compte, que je me suis rendu compte que j'avais pas perdu mon amour des mots et que j'avais donc pas perdu mon amour de la vie, que j'étais toujours là, que sous le grand châle de tristesse qui me recouvrait à ce moment-là et qui était parfois très très opaque, il y avait quand même des petites étincelles de vie, de joie, de bonheur qui émergeaient et qui me faisaient revenir à la vie. Oui, c'est vraiment ça. Et c'était justement partager mes écrits avec vous, avec mon compagnon après quand il venait, avec d'autres personnes à qui je les faisais lire. J'avais l'impression que je recommençais à avoir une valeur. Je me disais, vous voyez, allez, j'étais fière de montrer ce que j'avais écrit parce que j'avais l'impression que je servais de nouveau à quelque chose.
Thank you. Burnout, burn-in, le puzzle de la cocotte minute. À trop tirer sur sa corde, elle finit par lâcher. Alors on s'écroule dans un atterrissage douloureux, le corps abîmé par sa course effrénée d'une fuite délibérée, l'esprit torturé par les blessures de l'humanité. Notre âme est en péril sur ce chemin d'exil. On ne choisit pas, c'est trop tard. On se sent corrompu par un comportement défaillant de l'ordre de la survie qui a étouffé notre nature profonde. Perdu dans la foule, on commence à pâlir et à avoir envie de fuir. Le cœur en exil, on demande le droit d'asile. Le cœur déformé, ça brûle notre intériorité. Ça explose à l'extérieur en mille morceaux projetés par la peur d'un chaos morbide. J'ai mal au bide, les tripes retournées, plus rien ne me nourrit, je ne me reconnais plus. Et pourtant, elle continue la vie en creusant ce vide tout au fond de moi. Je me dissocie comme un puzzle de cocotte minute en fusion et je rencontre cet autre qui veut continuer à cohabiter avec moi. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Changement d'humeur, mon sourire s'efface. La tristesse et les larmes prennent toute la place. Angoisse profonde, dépression, désespoir deviennent alors mes nouveaux compagnons de route. Quand le masque tombe, on se met en recherche de son vrai visage et on comprend qu'il faut arrêter cette divine comédie, celle qui nous pourrit la vie. Mais si fragile, je vacille. Et puis il y a l'autre qui est toujours là et qui veut continuer ce fonctionnement d'avant. Et puis il y a moi qui me consume devant tant d'étrangetés. Et de là commence un voyage en solitaire. Isolement social, décrochement professionnel. Tout nous semble venir nous séparer de notre vie d'avant. Thérapeute en tout genre, antidépresseur, anxiolytique, hospitalisation, on s'autorise à se mettre en sécurité pour se réparer, à trouver des béquilles pour ne plus se sentir en danger. Et il en faut du courage pour reconnaître que dans ces moments difficiles, nous avons besoin d'aide. Et il en faut de l'humilité pour accepter de se reposer sur d'autres qui nous aident à réapprendre à vivre et à construire des échelles pour sortir de son trou. On se prend des coups et des leçons de sagesse. En chemin vers soi, on accepte sa vulnérabilité, qu'on apprend à transformer en force dans une divine alchimie. Mais dans un monde basé sur l'individualité, la productivité, la compétition et la dureté, les portes vers sa fragilité semblent difficiles à pousser. Et pourtant, sortir de l'isolement semble être la clé. Continuer d'ouvrir son cœur en grand semble être la serrure, car les autres aussi souffrent silencieusement. Et à partager, nous avons tellement. Il y a l'autre, et puis il y a moi. Et on essaye de cohabiter, comme pour la toute première fois. On apprend à s'aimer pour ce que nous sommes vraiment, en osant changer notre système de croyances défaillant. Fragmenté, mais rassemblé. Dispersé, mais entier. Et finalement, on se remercie d'avoir craqué, car pas à pas, on apprend à devenir soi. Heureux soient les fêlés, car ils laissent entrer la lumière.
Écrire ailleurs, en psychiatrie, se reconstruire face à l'abîme. Un documentaire de Vinciane Meuchler, montage et réalisation Michel Bernard, mixage Laszlo Umbreit, montage des textes lus Stéphane Wertz. Une production Unité Nomade, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Marie-Claire Tilmani, à Régine Cesser, à la Clinique de la Ramée, à Delphine Lévy et à l'équipe du SAT, à Damien Brassard, à François Sturz, ainsi qu'à Stéphanie, Juliette, Anama, Sophie et Michael pour leurs témoignages et pour leurs textes.